Bonjour et bienvenue à Europe & Roll sur Radio Fadjet, l'émission qui vous révèle tout de l'actualité des jeunes européens. Le sujet de cette semaine, les origines de l'Union européenne. Après un aperçu de l'actualité européenne, toujours aussi diversifiée, on commence un voyage à travers le temps avec une excursion dans l'Europe romaine menée par Irina et une présentation des Pères de l'Europe. Pour finir, Bruno Dubois d'Anguien nous fera découvrir le musée de l'Europe. Mais tout d'abord, je laisse la parole à Maxime pour le flash info transeuropéen habituel.
Italie, expulsion massive de ressortissants roumains. L'Italie a adopté mercredi 31 octobre un décret-loi en urgence qui autorise l'expulsion facilitée de ressortissants de l'Union européenne. Cette décision vise surtout les ressortissants roumains présents sur le territoire italien, arrivés en masse dans la péninsule italienne depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en janvier dernier. Cette décision fait suite à l'agression d'une femme tuée par un ressortissant roumain à Rome. Les autorités roumaines ont critiqué cette décision et les instances européennes la contestent car il est interdit de viser un groupe déterminé de personnes dans les expulsions. L'Italie, on en reparle après le flash dans le Zoom Actu. Espace Schengen, 8 nouveaux pays en décembre. C'est dans ce contexte tendu que les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont approuvé l'élargissement de l'espace Schengen à 8 nouveaux pays. Il s'agit pour la plupart des pays entrés dans l'Union en 2004, comme la Pologne ou les Pays-Baltes. Cet élargissement sera effectif dès le 21 décembre. Finlande, une fusillade dans un lycée. Un lycéen finlandais de 18 ans a tué jeudi 8 octobre 8 personnes dans l'établissement de Jokela, situé dans une petite ville à proximité d'Helsinki. Un drame rare dans ce pays dont le système éducatif est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Au-delà de ça, le débat en Finlande se porte désormais sur la question des armes. Le pays se situe en effet à la 3e place mondiale pour la possession d'armes à feu. On peut y posséder une arme dès 15 ans en étant membre d'un club de tir ou en disposant d'une carte de chasse. Le pays avait demandé une exception concernant une directive européenne qui interdisait le port d'armes aux mineurs. Belgique, la crise politique s'allonge et empire. Un vote qui s'est tenu mercredi 7 novembre à la Commission de l'Intérieur de la Chambre des députés a enfoncé la Belgique un peu plus dans la crise. Les députés flamands majoritaires dans cette commission ont adopté le projet de démantèlement de l'arrondissement bilingue Bruxelles-Halle-Vilvoorde, situé entre la Flandre et la région Bruxelles-Capitale. Suite à ce vote, les Wallons ont suspendu les négociations pour la formation d'un gouvernement. C'est la première fois que les Flamands profitent de leur supériorité pour imposer leurs décisions à la minorité francophone. Le roi Albert II a confirmé le Flamand Yves Le Terme à son poste de formateur. Il a aussi demandé au président du Sénat et de la Chambre des députés de réfléchir aux moyens pour assurer, je cite, « le renforcement de la cohésion entre les communautés ». Yves Le Terme ne serait alors chargé que d'élaborer un programme socio-économique. La Belgique est sans gouvernement depuis maintenant près de 200 jours.
Merci Maxime. Et on enchaîne avec un morceau de musique, Se Telefonando, du groupe Delta V. Sul manchi ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te, ma nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. We'll be right back.
Zvikir.
Nazarek.
Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
C'était Se Telefonando de Delta V. Maintenant, comme prévu, l'actualité Europe & Rollesque présentée par Anaïs sur la situation des Roumains en Italie.
Suite à l'assassinat d'une citoyenne italienne à Rome le 30 octobre par un immigré roumain, le gouvernement italien a pris en toute urgence un décret facilitant l'expulsion de ressortissants de pays membres de l'Union européenne. Ces expulsions peuvent en effet se faire sur simple suspicion. Ainsi, les contrôles d'identité et les expulsions se multiplient depuis cette date. La communauté roumaine est la plus importante communauté étrangère d'Italie, soit plus de 500 000 personnes. On estime à 1000 le nombre de migrants roumains arrivés chaque mois depuis le début de l'année, date de l'entrée du pays dans l'Union européenne. Walter Veltroni, maire de Rome, a déclaré « Rome était la ville la plus sûre du monde avant 2007 ». En effet, l'Italie fait face à une montée de la violence depuis le début de cette année. Elle est imputée en bonne partie aux Roms installés dans des baraquements insalubres autour des grandes villes. Rome, Milan, Gênes et Florence ont déjà engagé 38 procédures d'expulsion. Des policiers ont procédé à la démolition de ces bidonvilles. Le chef du parti d'extrême droite italienne, Gianfranco Fini, estime que 20 000 Roumains devraient être immédiatement expulsés, rien qu'à Rome. L'Italie s'estime en effet dans l'incapacité de faire face à cet afflux de ressortissants des nouveaux pays membres de l'Union européenne. Elle n'avait tout simplement pas prévu ce phénomène. Jusqu'ici, l'Italie n'était pas un pays d'immigration et n'avait donc pas de politique d'immigration effective. C'est pourquoi ce décret-loi a été considéré comme indispensable pour préserver la sécurité publique. Or, la loi européenne n'autorise pas l'expulsion de certains groupes ethniques en particulier, mais seulement de certains individus menaçant la sécurité publique. De plus, le gouvernement italien craint des actes de vengeance populaire, trois ressortissants roumains ayant été agressés à Rome par un groupe d'Italiens. Face à cette montée des tensions intracommunautaires, le premier ministre roumain Tariceanu s'est déclaré, je cite, « inquiet des réactions xénophobes ». Il a appelé son homologue italien Romano Prodi à prendre des mesures en vue d'assurer la sécurité de ses compatriotes. Néanmoins, les deux pays se sont accordés sur la nécessité de travailler conjointement afin de résoudre cette situation. Romano Prodi a annoncé ne pas avoir l'intention d'expulser en masse. Il a ajouté que cette décision ne prenait pas de caractère raciste en insistant sur la proximité culturelle entre les deux pays. Cette politique coûteuse peut sembler inutile car les immigrés reconduits à la frontière peuvent retourner en Italie à loisir. Ces événements interviennent dans le contexte de l'élargissement prochain de l'espace Schengen. 8 nouveaux pays rejoindront l'espace de libre circulation en décembre 2007.
Pour rester sur le sujet des Balkans, on continue avec un nouveau morceau de musique. Désespérément joyeux de la Chango Family, un groupe français aux influences des Balkans.
Joyeusement désespéré et désespérément
joyeux,
tirez les joyaux de la joconde et moi du feu. Oui, ça veut un peu égard, dramatisons pas. Je ne maîtrise pas le charbon, c'est bon pour l'estomac. La nature et le dénutané, la terre est pour la main. Si les gens sont lourds, c'est pas du côté du cœur. Entre les couilles courtes, sentimental à
sveiki.
Nazdare.
Europenroll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
C'était Désespérément joyeux de la Chango Family. Et notre voyage à travers le temps débute avec une escapade dans l'Europe romaine menée par Irina, avec une interview de la directrice du parc archéologique européen.
Vous allez nous parler du parc archéologique européen. Qu'est-ce qu'on peut y faire ?
Je vous parle du parc archéologique européen de Blisbrück-Rheinheim, donc situé à la frontière entre le département de la Moselle en France et de la Sarre en Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Bien marcher, parce que il est situé dans une très belle vallée, et puis découvrir des vestiges de deux époques différentes, à savoir l'époque gauloise et romaine.
Il s'appelle européen, en quoi l'est-il ?
Il est européen parce que Blisbrück est en France et Rheinheim en Allemagne, donc il est frontalier, binational, et il présente deux civilisations qui sont aux racines de la culture européenne, celtique et romaine.
Qu'est-ce qu'on peut y apprendre, d'une part sur l'archéologie et d'autre part sur l'Europe ?
Ce qu'on peut apprendre sur l'archéologie, bien, c'est déjà observer les fouilles quand elles ont lieu l'été pendant la campagne de fouilles. Les fouilleurs n'hésitent pas à lever la tête et à entrer en dialogue avec les gens qui les intéressent. Et les guides ou l'archéologue responsable de la fouille peut donner aussi des explications bien plus amples. Ce que l'on peut apprendre sur l'Europe, c'est que les Gaulois, dont on sait peu de choses, en fait, ont joué un rôle important et n'étaient pas du tout les barbares présentés par les Grecs et les Romains.
Vous faites souvent des visites pour des classes scolaires. Est-ce qu'il y a des classes allemandes et des classes françaises qui viennent ?
Bien sûr, nous avons un beau programme scolaire de part et d'autre de la frontière. Bien entendu, on y parle la langue respective. Il y a quelques classes bilingues qui viennent. Il y en a quand même pas mal dans la région. Donc ça, c'est toujours un plaisir de parler français à des petits Allemands ou Allemands à des petits Français.
Comment se déroule la coopération en pratique, donc parmi ceux qui y travaillent ?
Eh bien, par des contacts quotidiens, le personnel des deux côtés forme une même équipe parce qu'on a le souci commun de recevoir un seul et même public. C'est un lieu justement qui touche beaucoup. On apprend des choses, la nature y est très belle, mais il y a cette dimension européenne qui est là, constante, mais d'une manière naturelle.
C'était Irina. Et on continue notre programmation musicale avec Rocksteady de Freckenbock.
Yeah, those
Mazarek. Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
C'était Rocksteady de Frickenbock. Et maintenant, les pères de l'Europe, une interview du directeur du centre Robert Schuman au micro de Maxime.
Robert Schuman est né au Luxembourg à la fin du 19e siècle. Il y a grandi et il a fait un baccalauréat luxembourgeois à 17 ans. Pour lui, à cet âge-là, s'est posé la question de son avenir, et à 17 ans, il a choisi en définitive de devenir juriste. Il a choisi de faire des études de droit en Allemagne, et il a fait son doctorat de droit à Strasbourg, et est venu s'installer donc au début du 20e siècle, en 1911, comme avocat à Metz.
Et comment est-il entré dans la politique ?
Alors, il est entré dans la politique, en fait, après la première guerre mondiale, en 1918, parce que le gouvernement français l'a désigné comme conseiller municipal au moment où Metz est redevenue française, ce qui va le conduire, sans doute assez naturellement, à se présenter aux élections législatives, aux premières élections législatives de Moselle et de l'Alsace redevenues françaises en 1919. Et il sera élu député de Thionville jusqu'à sa mort, quasiment. Sa carrière, disons, nationale et internationale n'a débuté qu'après la Deuxième Guerre mondiale.
Qu'est-ce qui l'a amené à être notamment un des artisans majeurs de la construction européenne ?
À ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale, Robert Schuman est un parlementaire expérimenté. Il va être élu à la présidence de la Commission des Finances, à l'Assemblée nationale, à la Libération, qui va déboucher très rapidement sur sa nomination comme ministre des Finances, à un moment où il faut reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'il va faire connaissance de Jean Monnet, qui est le commissaire général à la reconstruction de la France. Puis il deviendra, pendant presque 5 ans, ministre des Affaires étrangères. Et c'est là qu'effectivement il va négocier pour la France, et puis le traité de la CECA, qui est donc une initiative commune de Jean Monnet et de Robert Schuman pour en définitive maintenir la paix en Europe.
Et est-ce qu'il y a des raisons peut-être plus personnelles dans la vie de Robert Schuman qui l'ont amené à avoir cette conviction européenne ?
Robert Schuman, je vous l'ai dit, c'est un homme des frontières, il a été un observateur de la Première Guerre mondiale, où il a été le premier parlementaire français qui a été arrêté par la Gestapo en 1940. Il a échappé miraculeusement à la déportation dans un camp de concentration, etc. Donc il a été marqué par ces guerres, et son objectif effectivement était de dire il faut que les deux grands peuples européens, la nation allemande et la nation française, s'entendent, se réconcilient d'abord et coopèrent, parce que sans cette coopération, il n'y aura pas de paix en Europe.
C'était Maxime avec les Pères de l'Europe. Et maintenant, un petit air de musique tchèque du groupe Lipsa la Fixa avec leur chanson Francuska Spivat chanson. Klesající dolů, 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 dolů.
francouzka zpívá šanzon o probuzení a višňový sad. Teď o půl páté ráno rozkvětá, směju se, co to zpíváš. Vždyť je to hymna, umím se. Yes, 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 na krmě. Yes, 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 na krmě. Yes, 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 na krmě. A pak mě odnesou. To jsme si zaslužili život a francouzka zpívá šanzon. Co zítra uvidíš ty?
Sveiki.
Nazdarek.
Europe & Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
C'était Francesca Spivat chanson de Vipsana Fixa. C'est au tour de Bruno Dubois d'Anguien de l'émission L'Europe et vous, notre partenaire belge. Il nous fera découvrir l'exposition C'est notre histoire du musée de l'Europe à Bruxelles. Il s'agit d'une exposition des années 1945 à nos jours. Elle montre que nous jouons tous le rôle des héros de l'unification de l'Union européenne. Lors de l'exposition, chacun peut revivre son histoire. Années d'enfance, événements importants, culturels comme politiques, sont accessibles à tous par la diffusion de films et de musique.
Nous avons rencontré à Bruxelles Tamara Goldstein. Elle est historienne au sein de la société Tempora de Benoît Remiche. Elle a participé avec 15 autres personnes à la confection de cette exposition qui s'étale sur près de 3000 mètres carrés.
Ce qu'on a voulu présenter ici aux visiteurs, c'est donc à la fois la grande histoire de l'Europe, tous les événements qu'ils soient européens ou internationaux qui ont façonné l'histoire de la construction européenne, mais parallèlement à ça aussi, s'imprégner de la vie quotidienne de l'Européen, de destin individuel et de donc de pouvoir suivre à travers des personnages réels, des Européens, quelle est leur vie au quotidien. On a donc présenté donc des objets qui font partie de nouveau de cette grande histoire âge, des documents d'époque, des traités, un stylo qui a servi à la signature d'un traité, mais aussi des objets qui font partie de la vie personnelle des gens. Je pense notamment à ces trois petites robes de petites filles qui, malgré elles, ont aussi vécu cette histoire terrible de la guerre et de l'après-guerre.
Je crois qu'il est important de resituer cette exposition avec la contribution de 27 citoyens de l'Union européenne qui apparaissent à différents moments dans cette exposition. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment tout ce travail a été fait, 27 citoyens qui ont un lien avec l'histoire européenne, mais qui la vivent parfois avec des petits aspects, mais qui sont aussi importants dans la vie des gens?
Oui, voilà, tout à fait. Donc, à nouveau, on a voulu rapprocher le visiteur et l'Européen à l'histoire, à ce qui est son histoire, en lui présentant donc 27 personnages, 27 Européens qu'on a choisis dans chaque pays que constitue l'Union Européenne aujourd'hui. Je pense, par exemple, au Français Philippe Cosette, qui est donc l'ingénieur qui a serré la main de l'Anglais lorsque le tunnel sous la Manche a été percé. C'est un moment historique. Mais il faut aussi se rappeler que ce moment est un moment historique aussi pour lui dans sa propre vie.
C'est ça. Alors, je trouve intéressant, à la fin de l'exposition, il y a un moment donné où le visiteur participe activement, il participe un petit peu à un sondage.
Oui, donc au-delà de la simple visite, on a voulu impliquer le visiteur ici dans cette exposition, dans un espace qu'on a appelé l'eurobaromètre. On a voulu demander aux citoyens de s'exprimer et de voter. Et donc, on demande aux visiteurs de gérer un budget, comme le font les politiciens, et donc on le met à sa disposition virtuellement 100 euros, qu'on va lui demander de départager entre des thèmes comme l'environnement, la sécurité, l'éducation, l'immigration. Et puis on va lui demander aussi, mais tiens, à quelle autorité donnez-vous cette compétence? Donc plutôt à son propre pays, à l'Union européenne ou à sa région? Et donc tous les résultats vont venir s'afficher ici, tel un sondage en temps réel dans l'exposition.
Pourriez-vous peut-être nous rappeler les précédentes étapes et la dynamique qui s'annonce pour le Musée de l'Europe?
Oui, donc je vous rappelle l'exposition La Belle Europe, qui parlait donc de l'Europe au temps des expositions universelles en 2001. Et ensuite, l'année dernière, en 2006, l'exposition Dieu, mode d'emploi, qui parlait donc de l'expérience religieuse dans nos sociétés européennes, enfin occidentales. Je veux en même temps rappeler qu'un musée, avant d'être un bâtiment, avant d'être des murs, c'est un programme culturel et c'est ce que le Musée de l'Europe est en train de faire maintenant depuis près de 10 ans.
Après Bruxelles, cette exposition émigrera vers l'été au Musée des Invalides de Paris. Pour tout renseignement pratique, un site internet super bien fait à vous conseiller, www.expo-europe.be. C'est notre histoire, un grand rendez-vous pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur leur histoire à eux au travers de l'histoire européenne.
C'est fini pour Europe & Roll cette semaine. On se retrouve dès dimanche prochain sur Fadjet pour une nouvelle émission. En attendant, retrouvez nos articles et nos émissions sur fadjet.net et europeandroll.eu. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Fadjet.